Merci. Malgré vos précautions pour ménager nos nerfs, on a bien compris que vous étiez quand même très inquiet. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les trois, qui est une question finalement d'effet miroir par rapport à l'histoire. On est quand même très inquiet quand on regarde l'enchaînement actuel de la similitude avec ce qu'on a vécu dans les années 30. On a eu au début des années en 31, je crois, une dévaluation de la livre. On a eu ensuite le dollar. On avait les pays du bloc or qui nous disaient, qui nous soutenaient mordicus, qu'ils ne dévalueraient pas, qui garderaient leur monnaie, etc. Et finalement, ce sont ces pays qui, un, ont mangé leur chapeau, et deux, sont sortis les plus tard de la crise. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de revivre un petit peu la même situation. Donc ma question est un petit peu la suivante, sans détour, et j'allais dire sans tabou. Est-ce que, en plus, non, j'oubliais un autre phénomène, c'est que toutes les consolidations budgétaires réussies qu'on a vues, que ce soit le Royaume-Uni au début des années 90, puis la Suède, puis le Canada, ont réussi avec des réformes courageuses, certes, mais avec une dépréciation importante de leur monnaie. Donc ma question, c'est est-ce que on peut réussir une consolidation budgétaire en n'ayant plus aucune marge de manœuvre? Bref, est-ce qu'il faut une vraie politique de change de l'euro, ou bien est-ce qu'il faut même abandonner l'euro, se dire que l'euro ne marche pas, que nous avons fait finalement la moitié du chemin en créant l'euro, qu'on espérait aller plus loin, faire une Europe politique, qu'on est planté au milieu du gué, qu'on n'arrivera pas peut-être à aller de l'autre côté de la rive, vu le comportement de certains membres de la zone euro, comme l'Allemagne par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas mieux rebrousser chemin et retourner sur la rive précédente? C'est un peu, je n'exprime aucune opinion là-dedans, je m'interroge. Est-ce que chacun d'entre vous peut réagir à cette question? Et après, je vous passerai à tous la parole, évidemment, parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions.
Alors, très rapidement sur les deux points qui ont été soulevés. D'abord, sur la similitude avec les enchaînements dans les années 30. Oui, on ne peut qu'être frappé par les similitudes. Et en effet, il faut rappeler aussi, par exemple, qu'en France, en 1935, on a lancé la grande politique de consolidation budgétaire qu'on a appelée la déflation Laval. Et ça n'a pas été un grand succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas beaucoup de raisons d'être optimiste sur les effets des politiques de consolidation budgétaire. Et en effet, comme vous l'avez rappelé, les quelques exemples de consolidation budgétaire réussie qui sont généralement cités dans la littérature sont des exemples qui s'accompagnent à la fois de politiques, et ça le FMI le montre bien dans son étude, à la fois de politiques monétaires accommodantes et justement de dépréciation assez importante du taux de change. Donc là, dans le cas de l'Europe en particulier, on n'aura ni l'un ni l'autre. Donc on n'aura ni une politique monétaire plus accommodante, parce qu'elle est déjà au maximum pratiquement, et ni une dépréciation de la monnaie, parce que toutes les monnaies ne peuvent pas se déprécier en même temps. C'est tout ça, c'est aussi bête que ça. Donc si certaines monnaies se déprécient, eh bien forcément d'autres s'apprécient. Alors la question suivante, est-ce qu'on doit sortir de l'euro? Est-ce que, étant arrivé au milieu du gué, il vaudrait mieux rebrousser chemin? Je crois que la réponse est non, malgré tout. Parce qu'évidemment, on voit bien que s'il y a une espèce de mouvement de sauve-qui-peut en Europe, où chacun essaie de dévaluer par rapport aux voisins, ben, on va avoir aussi les effets néfastes qu'on a observés dans les années 30, etc. Et ça va se traduire aussi par des augmentations des endettements publics, etc., etc., puisque les dépréciations monétaires vont engendrer des remontées d'endettement et des choses de ce genre-là. Donc je crois que cette solution que certains envisagent en disant finalement ce serait mieux de ne pas être dedans, ce n'est pas une solution. Alors peut-être si on n'y avait pas été il y a 10 ans, on pourrait raisonner autrement, mais il se trouve que ça fait déjà plus de 10 ans qu'on a investi dans cette chose qu'on appelle l'euro, et je pense que la solution c'est pas d'en sortir en ordre dispersé, mais au contraire d'essayer de renforcer la coordination des politiques macroéconomiques au sein de la zone euro. Et je sais bien, on voit bien que c'est pas facile, notamment avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne a des convictions et des besoins qui ne sont pas nécessairement ceux de ses partenaires au sein de la zone euro, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une économie tournée vers l'exportation, vers la Chine, etc., qu'elle s'est spécialisée sur des tout petits créneaux sur lesquels, justement, elle tire parti de la croissance chinoise, et que ce n'est pas le cas du reste de la zone euro. Et puis pour une raison fondamentale qui est plus profonde encore, qui est la raison démographique, qui est que l'Allemagne est un pays dont la population diminue, et donc c'est un pays qui, comme vous le savez, n'a pas connu, à la différence des autres, d'augmentation du chômage dans la crise, et même une légère réduction dans les mois récents. Et donc les besoins de croissance de l'Allemagne ne sont pas les mêmes que ceux du reste de la zone euro. Donc la coordination des politiques macroéconomiques au sein de la zone euro, elle est à la fois très nécessaire et en même temps très difficile, parce que les exigences ne sont pas les mêmes. S'il s'agissait simplement de faire marcher tout le monde du même pas, ce serait simple. Mais là, la question, c'est comment faire marcher tout le monde comme il faut, mais pas du même pas. Et ça, c'est vachement difficile. Dans les armées, on n'y arrive pas non plus. Donc, c'est très compliqué, mais c'est vers ça qu'il faut arriver.
Merci beaucoup. Je rappelle qu'en France, nous avons 20 millions de moins de 25 ans. L'Allemagne n'en a que 15. Alors, effectivement, ça crée des contraintes très différentes. Olivier.
Oui, je ne reviendrai pas sur les années 30, donc juste quelques mots sur l'euro.
Au moins sur une gestion de la monnaie.
Oui, non, mais en tout cas sur le sujet qui me paraît plus important, sur celui de l'euro. Bon, première remarque qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les problèmes actuels et que rencontrent un certain nombre de pays de la zone euro, on ne peut pas dire que la cause première n'est pas l'euro. D'ailleurs, je ferai quelques remarques simples, c'est que les premiers pays qui ont eu depuis le début de la crise des gros problèmes et qui ont dû d'ailleurs dans certains cas être sous assistance de FMI, c'est des pays qui n'appartenaient pas à la zone euro. Le premier, c'est l'Islande, vous le savez. Ensuite, il y a des pays comme la Roumanie, la Hongrie qui sont sous plan FMI et qui ne sont pas dans l'euro et qui souffrent. Il y a aussi tous les pays baltes et qui ont dû subir des cures d'ajustement très, très sévères. Donc là, tout simplement, il y a eu un excès de crédit, que ce soit de la dette publique ou de la dette privée, selon les pays. Là, c'est ça le point principal. Et on trouve aussi bien, dans ce cas-là, des pays qui appartiennent à l'euro ou des pays qui n'appartiennent pas à l'euro. Alors ensuite, le deuxième point de dire, quand on dit c'est plus facile dans une économie, si dans le cadre aussi elle peut accompagner son plan d'ajustement budgétaire et son plan d'ajustement général par une dévaluation. Les cas que l'on a en tête, c'est toujours le cas de petites économies très ouvertes et qui se situent dans un contexte où le reste du monde était en forte croissance. Cas des pays nordiques, par exemple, dans les années 90. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce contexte-là. Premièrement, l'économie mondiale, on voit bien que la demande mondiale, en tout cas dans les économies développées, reste très molle, au sein de la zone euro aussi. Et comme l'a dit Jacques, de toute façon, tout le monde ne peut pas dévaluer en même temps. Donc c'est un peu de vouloir de dire, c'est pas l'euro, c'est pas l'euro non plus qui empêche en tant que tel, qui nous contraint de ce point de vue-là, c'est que, en quelque sorte, l'ensemble du monde développé est un peu dans cette situation. Et donc, là, on ne peut pas jouer sur ce paramètre. Alors, dernière remarque, et peut-être pour terminer par quelque chose de plus positif et à propos de l'Allemagne. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que l'Allemagne mène une politique coopérative ou non. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, sans doute, ce qui explique la politique menée par l'Allemagne durant les années 2000, c'est que, un, l'Allemagne est rentrée dans l'euro avec un taux de change surévalué, donc avec une compétitivité dégradée, donc a dû s'ajuster. Et en même temps, l'Allemagne avait un vrai problème. D'ailleurs, on disait jusqu'à il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous, on disait souvent l'Allemagne est le malade de l'Europe, a des problèmes, est obligée de recourir à la sous-traitance en Europe de l'Est. Donc il y avait un problème de compétitivité et aussi des obstacles au développement de la demande intérieure en Allemagne. Peut-être aujourd'hui, si on veut voir un élément positif, c'est de se dire aujourd'hui, on commence à voir un peu des signes de frémissement du côté de la demande intérieure allemande. On voit que les gains en termes de commerce extérieur qui jusqu'ici ne s'étaient pas du tout répercutés sur l'économie intérieure allemande et sur l'emploi, commencent à se répercuter sur la demande intérieure et sur l'emploi. Et si c'est le cas, à ce moment-là, il y aura des effets d'entraînement positifs sur le reste de la zone euro. Mais je crois que le problème de l'Allemagne, ce n'était pas tellement que l'Allemagne menait une politique non coopérative, c'est plutôt que l'Allemagne faisait face à un certain nombre de handicaps, soit de différentes liées à différents facteurs, qu'elle a peut-être au départ mal affronté. Mais en tout cas, là, il y a peut-être un changement qu'il faut prendre en compte.
Merci. Hubert Kemp, sur cet aspect un peu européen de la question.
Permettez-moi de répondre d'abord à la question du parallèle avec la crise. Parce que je crois que c'est une question qui est légitimement dans tous les esprits. Je répondrai oui comme Jacques, bien sûr, et non. Oui, il y a, les points de parallélisme sont clairs dans la durée. J'ai insisté sur la finance et également sur le fait international qui a nourri la crise des années 30, puisque en fait, peut-être le vrai démarrage de la crise, c'est les années 30 avec la loi protectionniste américaine. Mais je dirais aussi non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les États sont très différents. Les États ont à la fois du point de vue international, dans leurs relations les uns avec les autres, et aussi dans leur organisation proprement intranationale. C'est à des degrés différents, des États providence, avec des filets de sécurité importants, plus ou moins importants. On le voit d'ailleurs dans le cas américain, à quel point cette affaire de transfert, de stabilisateur automatique est un élément important dans la gestion d'une crise. C'est aussi des États qui internationalement, et ça c'est un élément important, savent qu'ils sont interdépendants. Ils l'ont appris grâce à la crise des années 30 et à ses conséquences qui n'ont pas été, je vous le rappelle, qu'économiques, mais qui ont abouti à un désastre de civilisation dont nous ne pouvons pas nous remettre facilement et que nous ne devons pas oublier. Et du coup, ils ont une habitude d'interaction plus grande. Le troisième élément de différence, c'est des mécanismes de transmission de la politique, des politiques économiques très différentes. Et Olivier Garnier nous a expliqué comment les effets de richesse sur lesquels tablait Ben Bernanke pouvaient fonctionner maintenant et ne pouvaient pas fonctionner de cette façon-là aux États-Unis. Et enfin, c'est un monde où la sphère financière est globalisée et joue de façon très différente. Donc, oui, dans un premier élément, dans un premier temps, et attention aux assimilations trop rapides. Mais j'en tire une conclusion majeure. C'est que dans le pilotage d'entrée de crise, un des éléments absolument essentiels va être la capacité de coopérer de ces États. Et selon qu'ils coopèrent ou qu'ils ne coopèrent pas, eh bien, on abordera les choses d'une façon plus ou moins disciplinée, plus ou moins ordonnée, et donc plus ou moins coûteuse. Pour la zone euro, je répondrai, comme Jacques, non, et j'ajouterai mais. En sortir, non. Non, non et non. D'abord parce que ça serait montrer bien des ingratitudes à l'égard d'un dispositif, d'une organisation monétaire qui nous a quand même déjà apporté pas mal de bénéfices, tant économiques que politiques. Ça serait surtout une faute majeure, c'est-à-dire que, parce que, comme l'a dit Jacques, en sortir ne se ferait que dans le désordre, la panique. Or, la panique, c'est la dernière chose dont on a besoin. Et une sortie de crise, ça provoquerait une crise à chaud, une crise majeure dont personne ne sortirait indemne, et il faut comprendre ce qu'est qu'une crise à chaud, une crise monétaire à chaud forte, de celle qu'a connue l'Argentine quand elle est sortie de son ancrage fort, le currency board, ce qu'on appelle en français une caisse de compensation, avec le dollar. Ça s'est traduit par une crise sociale majeure. Un ajustement du FMI, c'est toujours la contrepartie, et ça n'est pas la cause. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais lorsque vous faites intervenir les ambulanciers puis les chirurgiens, c'est en général que le sang coule et que ça se passe très mal. Les crises à chaud sont très coûteuses et elles sont supportées de façon très inégalitaire. Les riches s'en sortent mieux que les pauvres. Donc évitons évidemment la sortie à chaud de l'euro, mais c'est vrai. Du coup, réformons-le, et c'est là où est mon mais. Je crois qu'il y a une course de vitesse qui est engagée. entre la réforme nécessaire de la zone euro et ce devant la crise dont je parle. Et la question va être de savoir si, lorsqu'il y aura, s'il devait y avoir, mais effectivement, admettons, postulat, qu'il y aura une forte turbulence dans les années à venir, il vaut mieux que la zone euro y entre avec un dispositif institutionnel modifié, ayant tiré les leçons de la précédente crise, celle dont nous sortons malaisément, de façon à aborder cette crise avec un moindre coût et de moindres tensions sur la zone euro. En d'autres termes, j'espère que dans les journées de l'économie, dans quelques années, lorsqu'il y aura à tirer les conséquences ou faire le bilan de la prochaine crise, la question de la sortie de l'euro ne viendra à la tête, à la pensée de personne. Maintenant, vous pouvez me demander ce que j'entends par réformer l'euro, le dispositif institutionnel de l'euro. Eh bien, je crois que je vais aller vite, si vous m'autorisez. Évidemment, c'est un sujet extrêmement complexe. Mais disons, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour convaincre des opinions publiques extrêmement réticentes, un peu par ignorance, un peu par volonté de non coopérer au sein de l'Europe, eh bien, on leur a mis à ces opinions publiques nationales, européennes, un plat que l'on a cherché le moins épicé possible. Et en particulier, il ne s'agissait pas de mettre en avant dans les différents traités, en particulier le premier, le traité essentiel, le traité irréversible, celui de Maastricht, il ne s'agissait pas d'utiliser des mots qui fâchent, comme crise financière, banqueroute, faillite des États, défaut sur la dette souveraine, prêteur en dernier ressort. Et donc on a eu une construction institutionnelle qui, sur un des éléments majeurs auxquels pense tout économiste monétaire, même si cela concerne un événement à la probabilité faible, qui est la banqueroute souveraine, eh bien on a fait, sinon l'impasse, du moins jeter un pont de neige, en espérant qu'on pourrait passer et qu'il ne s'effondrerait pas, ou en tout cas pas trop vite. Mais voilà, le soleil est arrivé, le pont de neige est tombé. Alors, on a fait au mieux, mais les rustines actuelles ne sont pas viables, ne sont pas convenables, et il faut avoir un dispositif collectif d'ordonnancement des finances publiques, de rectification des finances publiques lorsqu'elles déraillent. Ça avait été le principe, en fait, l'inquiétude qui avait présidé au traité d'Amsterdam, celui qui a mis en place le pacte de stabilité et de croissance. Il n'est pas opérant. Et pourquoi n'est-il pas opérant ? Il n'est pas opérant parce qu'il est entièrement dans la main des politiques. Il faut que les mécanismes de sortie de crise de finances publiques dans la zone euro soit sorti du politique. Et là, il y a donc deux choses à jouer simultanément. Il y a à jouer un dispositif institutionnel légal et celui que proposent les Allemands sous bénéfice d'inventaire est parfaitement cohérent. On peut penser à d'autres mécanismes. Mais ces mécanismes ne sont utiles que lorsqu'ils permettent de piloter les marchés de façon que les marchés, la discipline de marché, fonctionne et permette de dégager les indicateurs de péril avancés par le biais des primes de risque sur les taux d'intérêt, tels que ce sont les gouvernements eux-mêmes qui sentent qu'ils ont besoin de corriger leur trajectoire de finances publiques avant qu'il ne soit trop tard. Donc il faut restaurer la discipline de marché dans les dettes souveraines de la zone euro par le biais d'un accompagnement institutionnel plus convaincant que le pacte de stabilité et de croissance. Quand on aura fait cette réforme-là, un des facteurs d'inquiétude que je pouvais avoir aura disparu et c'est pour le moi, un facteur majeur.
Merci beaucoup, Hubert Kempf. Eh bien, vous avez maintenant la parole, à vous de poser des questions. Je vous précise juste que nous nous arrêterons à 18h25 précise, puisque vous aurez à ce moment-là à votre disposition des bus pour vous emmener à la Bourse du Travail. Écoutez, Monsieur Trichet. Alors, question, oui, monsieur, et après, madame, juste devant.
Bernard Léon, je suis bénévole dans une association d'ingénieurs de l'environnement, et je suis assez passionné de politique économique, et justement, je voudrais poser la question suivante aux intervenants. Est-ce que, pour en revenir au titre « Crise, piloter la sortie du tunnel », est-ce que la seule analyse politique monétaire est-elle éclairante pour une sortie de crise ? En oubliant l'apport que peuvent avoir les politiques industrielles, les politiques régionales, les politiques sociales, est-ce que ces politiques régionales, nationales, industrielles et même sociales sont-elles hors champ de celui de l'économiste ?
C'est une excellente question. Moi, je voulais la formuler aussi sur la thématique. Là où vous avez raison, monsieur, c'est qu'on a l'impression que les politiques macroéconomiques sont un peu, touchent un peu à leurs limites. Et effectivement, est-ce que ce n'est pas aussi l'heure des politiques microéconomiques, des réformes microéconomiques ? Marché du travail, éducation, sociale, industrie, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend plusieurs questions d'un coup ? Allez, il y avait madame.
Oui. Oui, pour prolonger un peu les propos de M. Kempf, je voulais avoir votre avis sur le fonds de stabilité budgétaire qui a été mis en place donc, à l'initiative d'Ecofin en juin dernier, et savoir si ça pouvait dessiner des perspectives de coordination des politiques budgétaires et donc de sortie de crise pour la zone euro et probablement au-delà.
Ok, on en prend une troisième et on fait... Monsieur, il y a un micro...
Une question importante, c'est en fait, vous parlez du pacte de stabilité. J'ai lu un article sur Alternative économique qui disait que, l'exemple du Canada, c'est qu'au Canada, ils ont une banque fédérale et ils ont pu éviter d'avoir une crise chez eux en régulant l'inflation du pays au niveau des prix. Alors, je me pose la question, le problème de l'inflation, c'est qu'il est trop élevé et ce qui fait que ça fait une crise, c'est au niveau du pouvoir d'achat quand les gens ne peuvent pas acheter et qu'ils ont leur salaire. Est trop moins élevé au niveau de ça. Donc ça ne suit pas. Est-ce que si on baissait l'inflation au niveau des prix de matières premières, mais en les mettant à un prix raisonnable, comme le commerce équitable, c'est-à-dire l'achat responsable, le salaire qui soit cohérent au niveau de ça, est-ce que si on met ça, c'est-à-dire que les gens puissent acheter ou puissent... consommer convenablement et que le constructeur puisse vivre pleinement de ça. Est-ce que si on met une stabilité de l'inflation correcte, c'est-à-dire un salaire qui soit un peu plus élevé que les prix, c'est-à-dire dans les matières premières, et une matière première un petit peu en dessous. Je pense qu'on arrivera peut-être à faire baisser la crise, je pense. C'est Merci. Peut-être une question de ça.
Merci. On va déjà prendre ces trois questions-là. Et après, effectivement, on prendra une deuxième salve. La question de l'Ecofin sera pour Hubert Kempf. Ah bah, Jacques Le Cacheux, sur les trois questions, hein, vous sentez bien chaud aussi. La question de, finalement, du pouvoir d'achat dans cette crise. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire du côté du pouvoir d'achat ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire aussi du côté de tout un tas d'autres politiques structurelles, politiques sociales, etc. Allez, Jacques Le Cacheux, vous commencez.
Bon, oui, parce que j'étais déjà chaud bouillant sur ce que disait Hubert à propos de la bonne gestion de la zone euro. Je ne crois pas du tout, moi, personnellement, que des règles plus strictes ou plus crédibles en matière de politique budgétaire vont suffire à arranger les choses. Sinon, la simple réforme du traité de Lisbonne qu'on nous prépare serait une très bonne nouvelle, puisqu'on dirait, bon, ben, ça y est, au fond, on va avoir réglé le problème. Je ne crois pas à ça du tout. Je pense que, hélas, on s'est on s'est focalisé depuis le début de la création de l'euro sur cet unique aspect qui était la discipline des politiques budgétaires, et on a vu à quel point on s'est planté, puisque d'une part on a eu la crise et d'autre part on n'a aucune discipline des politiques budgétaires. Donc c'est pas une bonne démarche, et c'est pas en renforçant les sanctions, etc., etc., ou en rendant plus indépendantes, etc., et ni même d'ailleurs, je crois, en essayant de rendre les disciplines de marché plus efficaces, parce que justement on a vu avec cette crise à quel point les marchés avaient failli en matière d'évaluation des risques et notamment les agences de notation. Donc là-dessus, moi je crois que si on veut vraiment améliorer la situation macroéconomique dans la zone euro, il faut avoir une coordination active et pas simplement des règles et des disciplines. Ça suffit pas. Bien sûr, il en faut, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. Donc ça, c'est sur le premier point. Sur le deuxième point, sur les politiques autres que les politiques macro, juste un point quand même sur le fonds de stabilisation. Non, moi je crois que c'est un, bon, heureusement qu'on l'a, c'est mieux que de ne pas l'avoir. Ça évitera, ça rendra la gestion de la prochaine crise un peu moins compliquée que la gestion de la précédente, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème, hein. C'est pas, on a mis 750 milliards dans ce truc, ça va permettre d'intervenir si un pays comme l'Irlande se trouve en difficulté, ce qui n'est pas du tout improbable dans l'état actuel des choses, mais ça ira bien pour l'Irlande, mais ça n'irait pas pour la France par exemple, ni même peut-être pour l'Espagne, ce serait un peu juste. Donc on voit bien que c'est un petit machin et on est content de l'avoir, mais c'est pas ça qui résoudra les problèmes. Donc, alors sur les politiques autres que macro, oui, moi je crois évidemment qu'aujourd'hui on a besoin, c'est ce que j'avais essayé d'esquisser dans la fin de mon intervention, on a besoin aussi d'avoir une vision plus à moyen terme et pas seulement de pilotage à vue de la crise, comme on le fait maintenant, puisqu'on le voit bien, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on met en place à chaque fois une rustine, à chaque fois qu'il y a un truc qui fuit, on dit ah, hop, on met un truc là, et puis la banque centrale américaine dit ah ben on va remettre un peu de liquidité parce que visiblement le précédent truc marchait pas, etc. Bon, c'est, heureusement qu'on fait ça, c'est mieux que de pas le faire, mais c'est pas ça qui va nous sortir durablement de la phase de croissance lente ou nulle dans laquelle nous allons, me semble-t-il, si on ne fait pas autre chose. Alors cette autre chose, c'est beaucoup de choses sans doute, mais je pense que aujourd'hui quand même le grand danger, c'est que on a parlé beaucoup, et Hubert en a parlé notamment, du fait que les États étaient aujourd'hui très différents de ce qu'ils étaient dans les années 30, notamment parce que ce sont des États providence avec des filets de sécurité, etc. C'est que la tentation est grande aujourd'hui dans les pays, notamment européens, de renier, voire de démanteler des pans entiers des politiques sociales pour justement satisfaire aux exigences de l'équilibre budgétaire, et que du coup ces stabilisateurs automatiques qu'on avait mis des décennies à mettre en place, on est en train peut-être de, en tout cas, de les amoindrir, sinon de les détruire. Donc ça c'est le premier point, et il me semble que ça c'est quand même un danger dans la logique des politiques actuelles. Le deuxième point, c'est que ce que j'évoquais aussi en conclusion, c'était que il suffisait pas de réduire les déséquilibres budgétaires. Il fallait penser une véritable politique de réforme fiscale, notamment en modifiant complètement les équilibres au sein de la fiscalité, de façon à orienter la croissance dans les bonnes directions. Et ça veut dire sans doute alléger très sensiblement les prélèvements sur le travail, par exemple, et accroître très sensiblement les prélèvements sur, par exemple, les ressources naturelles, sur le carbone, sur un certain nombre de choses comme ça, dont on voit bien que si on veut avoir une véritable perspective de croissance durable en Europe, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Alors, j'ai pas le temps de développer ça, mais je voulais juste le dire.
Olivier, sur l'aspect finalement pouvoir d'achat, là, sur l'aspect est-ce qu'on peut sortir de la crise en s'appuyant sur une façon de dynamiser un petit peu le pouvoir d'achat, en refaisant finalement peut-être du partage de la valeur ajoutée qui est actuellement très favorable au profit, un outil de politique économique.
Alors, peut-être, et en revenant aussi peut-être aussi sur quelques mots aussi sur les autres questions, mais déjà première remarque en écho à une question qui a été posée. Effectivement, la solution n'est pas que monétaire à la crise, et même les banquiers centraux eux-mêmes le disent. Si vous lisez Ben Bernanke, là, le lendemain du comité de la Fed, a publié dans le Washington Post un papier qui se terminait, mais de toute façon, la politique monétaire ne peut pas tout faire. Il faut pas, et c'est un des problèmes aujourd'hui, effectivement, aux États-Unis, que tout repose largement sur la politique monétaire. Bon, deuxième remarque. Sur le pouvoir d'achat, Bon, dans la situation actuelle, je ne crois pas que ça soit que le pouvoir d'achat soit l'élément d'ailleurs le plus qui contraint le plus aujourd'hui la demande. D'ailleurs, on en a discuté plusieurs fois là, pendant le débat. On est dans des situations d'inflation très faible et avec des prix voire en baisse. En tout cas, au niveau des salaires réels, on n'est pas dans beaucoup de pays, on n'est pas dans une situation de baisse marquée des salaires réels. Il y a une baisse du pouvoir d'achat après qui vient plutôt de la chute de l'emploi, là, dans le cadre, à ce moment-là, au niveau de la masse salariale. Mais la première contrainte aujourd'hui que l'on voit sur les dépenses d'un certain nombre de pays, il y a plutôt de contraintes bilancielles liées à l'excès d'endettement passé. C'est ça qui contraint d'abord et avant tout la demande.
Mais sur l'inflation, finalement, on se ferait un petit peu d'inflation, là. Ça nous mangerait pas un peu notre dette parce que finalement, dans le passé, les dettes, on les a jamais remboursées.
L'inflation n'a jamais été un moyen nécessairement de faire du pouvoir d'achat, au contraire.
Non, mais ça a été un moyen de rembourser.
Je suis sûr que tout à l'heure, Jean-Claude Trichet expliquera très bien, d'ailleurs sera très heureux de dire justement que c'est par une inflation faible et stable que l'on obtient du pouvoir
d'achat. Et qu'un dollar fort est dans l'intérêt. Alors,
un mot pour terminer sur tout ce qui tourne autour de la facilité européenne de stabilité financière et puis un peu le débat qu'il y a eu. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ces débats budgétaires européens et autres, on voit en gros, il faut clarifier les choses peut-être en voyant qu'il y a trois types de solutions. Il y a une première solution qui est tout simplement le fédéralisme budgétaire, c'est-à-dire en gros venir à une politique budgétaire unique. Alors, quand Jacques parle de coordination des politiques budgétaires, c'est pour ça que je suis toujours, parce que ça reste toujours un peu vague, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, coordination des politiques budgétaires, soit on a fédéralisme, effectivement, ou alors on va vraiment vers le fédéralisme, sinon, je ne vois pas ce que ça veut dire, ce n'est pas les Français qui vont dire aux Allemands, vous devez appliquer telle politique, au nom de quoi, ou... Donc ça reste un mot, souvent le mot coordination reste un mot un peu vague. Alors, si on dit on n'est pas du tout mûr pour le fédéralisme budgétaire, après reste deux types de solutions. Il y a la solution, c'est finalement un peu la solution par les règles qui a été évoquée, donc qui était un peu dans l'esprit du pacte de stabilité et avec le débat aujourd'hui, est-ce qu'il faut des règles plus automatiques ou non, qui est un peu la position que défend notamment la Banque Centrale Européenne. Ou alors, il y a l'autre position qui est plutôt de dire il faut plutôt travailler sur les, et qu'évoquait Hubert Kempf tout à l'heure, qui est plutôt de travailler sur les mécanismes de résolution, prévoir ce que l'on fait en cas de difficulté financière d'un pays et en cas de défaut d'un pays. Et on voit bien d'ailleurs que la BCE est très contre aujourd'hui ce type de solution. Alors à la fois pour des raisons d'opportunité, parce que c'est vrai que c'est pas très adroit aujourd'hui dans le contexte face aux difficultés que connaissent des pays comme le Portugal, de l'Irlande, etc., de parler de solutions qui voudraient dire que on aurait des pertes pour les détenteurs de titres publics de ces pays-là qui seraient envisagées. Donc ça rajoute aux tensions sur les marchés. Mais il y a plus fondamentalement de savoir est-ce qu'on est capable ou non de bâtir de tels mécanismes. Il y a eu, non pas dans le cadre de l'euro, mais dans le cadre FMI et plus généralement au niveau mondial, il y a eu dans les années précédentes pas mal de débats pour essayer d'instaurer au niveau mondial de tels mécanismes de résolution. On voit que ça n'a pas mené très loin, parce que c'est quelque chose de très compliqué d'essayer de mettre un droit des faillites des États. C'est quelque chose de très compliqué et qu'il serait encore plus dans le cas de la zone euro. Donc on est un peu face à la quadrature du cercle.
Bon allez, le temps tourne, je considère que vous avez répondu aux trois questions. On prend trois questions supplémentaires et Hubert Kempf répondra aux questions. Oui. Mademoiselle, madame là-bas et monsieur ici, allez.
Donc, bonjour, ma question va à monsieur Hubert Kempf. Vous avez conclu dans votre première intervention en disant que pour piloter l'entrée de la crise, il faudrait adapter les économies. Je voudrais savoir, en tant que ménage et agent économique individuel, comment pourrait-on contribuer à ce propos?
Ok. Il y avait madame là-bas.
Oui, alors c'est une question qui est un petit peu en décalage parce qu'on parle de sortie de crise. Elle est inspirée par la curiosité. Vous pouvez répondre brièvement. Donc c'est la suivante. Pourquoi en début de crise en 2007, l'État américain n'a pas renfloué immédiatement les propriétaires des biens immobiliers qui ne pouvaient plus payer plutôt que d'attendre et d'avoir à renflouer les banques et toute la déstabilisation qui s'en est suivie. Vous pouvez répondre brièvement à la question, elle est un petit peu en décalage.
Voilà. Oh, j'ai peur que la réponse ne soit pas brève. Mais il y avait un monsieur ici.
Alors, ma question suit la précédente, parce qu'elle concerne l'immobilier, en fait, puisque les problèmes actuels viennent en fait d'une bulle immobilière. La question est la suivante, est-ce que les banques centrales ne pourraient pas s'arranger pour réguler de même qu'elle régule l'inflation généralisée des prix, réguler l'inflation des prix immobiliers, de manière à avoir une activité dans le secteur de la construction qui soit régulière et non pas liée à des fluctuations assez erratiques.
Très bien. Oui, oui, la question de la régulation des prix actifs. Hubert Kempf, la question de qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour les ménages ?
Je ne ferai pas le détail, je répondrai aux trois. Mais bref.
Allez-y, répondez aux trois. Alors, il vous reste 8 minutes pour répondre chacun. Alors, faites
mademoiselle,
court.
J'apprécie votre préoccupation. Je crains qu'en tant que ménage, vous pesiez d'un poids macroéconomique assez léger. Donc
vous, étant dit, vous serez celle qui paye, en gros.
Ça ne veut pas dire que vous soyez sans pouvoir, mais peut-être pas comme vous le pensez. Vous avez omis de mentionner un de vos rôles. Vous êtes une citoyenne, vous vous intéressez au débat politique, vous y prenez parti, c'est déjà beaucoup. Eh bien, utilisez votre bulletin de vote, votre capacité à prendre parti. Je crois que c'est un élément extrêmement sérieux, ça renforce la solidité d'une société. Sur la question de 2007, pourquoi ne pas avoir sauvé de la faillite les premières victimes ? Eh bien, pour la même raison qui a conduit les États-Unis à décider de ne pas sauver Lehman Brothers en 2008. Ils voulaient ne pas créer un précédent, ils voulaient utiliser la discipline de marché, et l'on a vu à quel point, a posteriori, leur calcul avait été erroné. Donc, a posteriori, vous pouvez bien penser que c'est une erreur. Il est vrai qu'a priori, c'est pas si simple de décider comment intervenir. Et en particulier, et ça renvoie à la troisième question sur l'immobilier, qui est une excellente question.
Eh ben, donnez...
Pourquoi les banques centrales n'interviennent pas sur l'immobilier, puisque visiblement la cause a été cette fois-ci l'immobilier. Généralisons, pourquoi n'interviennent-elles pas sur toute source de crise, en particulier financière ? Eh bien, la réponse est simple. Enfin, il y a deux éléments. D'abord, elles ne savent pas quand il y a bulle, si c'est une bulle ou si ça correspond à le fait que, grosso modo, les agents ont décidé maintenant d'avoir des maisons plus grandes ou plus de résidences secondaires. Et puis, la deuxième difficulté devant laquelle elles se trouvent, c'est qu'en intervenant comme ça sur des marchés, elles prennent parti dans le mécanisme de formation des prix et donc elles créent des perdants et elles créent des gagnants. En d'autres termes, elles mettent le doigt dans l'engrenage de la redistribution que l'on veut bien admettre être du ressort des États parce que les États sont élus et donc ils sont mandatés par l'électorat, la société, pour adopter une mesure d'équité sociale en faveur des riches, en faveur des paysans, en faveur des pauvres. Mais les banques centrales, n'étant pas des institutions démocratiques...
On pourrait imaginer qu'elles soient mandatées pour le faire, même qu'elles sont mandatées pour atteindre le cible de l'inflation.
Je vous donne l'explication de la difficulté devant laquelle elle se trouve pour intervenir sur les marchés des actifs.
Merci.
Et c'est donc la même question que celle de l'immobilier. À commencer à intervenir, elles créent des perdants, elles créent des gagnants, elles mettent le doigt dans un conflit politique et elles ne sont pas du tout sûres, et on est même en fait certain qu'elles n'en sortiront pas gagnantes comme institution.
Olivier.
Est-ce qu'on sait d'abord, alors, parce que là on a une explication sur, bon, elles ne veulent pas, elles veulent rester impartiales, mais est-ce qu'elles auraient, si elles le pouvaient, les moyens techniques, les outils, la compétence technique pour le faire?
Ce que l'on peut... Là, je partage assez ce qui a été dit. Ce que, en revanche, ce qui peut être dit, c'est que elles peuvent intervenir. En revanche, elles peuvent surveiller, par exemple, l'évolution du crédit, parce que ce qui est un très bon indicateur avancé, souvent de toutes les crises financières, c'est une envolée du crédit. Et ce crédit, après, alimente des bulles financières. Donc, effectivement, souvent, il n'y a pas de légitimité. En plus, par exemple, si vous prenez aussi le marché actions. Au nom de quoi, par exemple, comment la Fed peut décider que le marché américain est surévalué ou sous-évalué? C'était souvent ce que disait Greenspan. Il disait, comment est-ce qu'il pourrait aller après, devant le Congrès américain, dire j'ai monté les taux parce que je considérais que le Dow Jones à 6000 est trop élevé. Vous voyez bien que là c'est... En revanche, la Banque centrale pourrait tout à fait dire et inclure ce qui se faisait d'ailleurs dans une certaine tradition, inclure des agrégats de crédit dans les variables qu'elle suit, et à ce moment-là, dire il y a trop de crédit qui va vers l'immobilier, ou trop de crédit en général, et intervenir dans ce cadre-là. Donc c'est plutôt sur les facteurs en amont des bulles financières que les banques centrales peuvent intervenir.
Une minute, Jacques Lecacheux.
Oui, de toute façon, sur ce point-là, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est sur le crédit qu'il faut agir. Je voulais juste rappeler, pour sauver l'honneur de Greenspan, puisqu'il a été tellement traîné dans la boue ces dernières années.
Oh, il avait été tellement avant.
Après avoir été porté au nu précédemment. Je voulais juste dire que justement Greenspan en 1996 avait eu le malheur de dire que la hausse de la bourse aux États-Unis était le fruit d'une exubérance irrationnelle, et il s'était fait rembarrer à cause de ça. Et donc effectivement les banques centrales ne sont pas en mesure de le dire, elles n'ont pas la légitimité politique de le faire, et donc il faut qu'elles s'en abstiennent.
Merci beaucoup, merci à tous les trois.